Changer d'air. Engagé pour un territoire innovant, Royan Atlantique est fier d'accompagner cette première saison d'Enquête d'essentiel. Ici.
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 Ici. Tout commence. Tout se poursuit. Enquête d'essentiel explore les paysages composés par la main de l'homme et suit le fil de leur histoire. Des voix à écouter, comme autant de fils à dérouler, de routes à croiser, des fils d'histoire qui tissent un territoire. Entre les estuaires de la Seudre et de la Gironde, les vignobles du pays royanais ont façonné le paysage. Ici, les hommes et les femmes y perpétuent une culture ancestrale et raisonnée de la vigne et du vin. On a pris la route pour découvrir leur histoire et leurs empreintes. Un récit qui commence ici, au cœur des vignobles du territoire Royan Atlantique. Royan, 6h du matin. Je prends le départ dans ma voiture, dont le bruit du moteur semble rivaliser avec celui de la pluie. Battante.
Encore beaucoup de nuages et d'humidité pour cette journée de mercredi.
Le GPS m'indique la D730 qui contourne Cozes. Destination Épargne. Et plus précisément, le domaine des côtes de l'estuaire et son propriétaire, Frédéric Duré.
Vous avez atteint votre destination.
Voilà, couche 2 et 4, tout ça c'est chez moi, voilà. Et moi j'habite là. Donc, et la maison là où nous sommes, c'est la maison d'habitation où j'ai grandi. Ça c'était une maison que j'ai rachetée. Voilà. Et ici, donc j'ai bientôt terminé la rénovation, parce qu'on va faire une salle de dégustation. Ça va être un espace autour du vin. Voilà. Là j'ai une chambre, une salle de bain, donc je peux recevoir un couple, etc. Et ici, on mettra une salle, enfin, il y a déjà une salle, mais on mettra une table pour la dégustation, voilà. Et il va y avoir une déco autour du vin, des bouteilles, etc. Donc là, ce sera un espace vraiment dédié à la découverte du vin. Un truc de partage, de plaisir, voilà, de convivialité, c'est important, hein. Si t'as pas envie de faire plaisir aux gens, tu fais pas de vin, tu fais pas de restauration non plus, tu fais pas tout ça.
Le ton est donné, déterminé, amusé et plein d'allant. On est reparti en voiture pour une visite du domaine des côtes de l'estuaire. Frédéric est au volant, je saisis le moment et l'interroge sur son parcours de vigneron.
Et avec un peu de chance, tu verras le soleil. Ouais. Ce ne sera pas le soleil d'Austerlitz, mais ce sera un soleil quand même. Ouais, donc là, t'es à Épargne. Donc la commune d'Épargne est assez étendue puisqu'elle fait un peu plus de 22 km². J'ai grandi à Épargne jusque... ouais. Ah oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que mon père est décédé, j'avais 10 ans. C'est-à-dire que après, je suis parti d'Épargne, puisque la vie fait que les gens se remarient, repartent ailleurs, etc. Donc j'ai eu une autre vie ensuite. Mais je revenais toujours à Épargne, que ce soit pour les week-ends ou pour les vacances, quand j'ai été plus grand. Voilà, donc ce que j'avais d'imprégné, je l'ai vécu en fait après... tout le temps jusqu'à ce que je revienne au quotidien, quoi. Ça a été un sujet, ça a été très prégnant, on va dire. Donc ça a été à la fois une habitude de gamin, ensuite une rupture de vie, un autre passage pour faire autre chose, et puis ensuite un retour. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors en 2013, en fait, moi j'avais encore ma société à Paris. Je voulais en fait diversifier mes investissements et j'avais une propriété de famille. Donc j'ai racheté les parts de mes sœurs, j'ai racheté la totalité du domaine, mais qui n'était pas dans un état suffisant pour faire fonctionner et pour faire vivre une famille. Voilà. Je te dis, le point d'ancrage, ça a été des terres nues sur lesquelles j'ai mis un cépage qui n'existait pas, donc le Viognier. Puis ensuite, ça a été la reprise d'un peu moins de 2 hectares de cognac et ensuite des plantations. Aujourd'hui, on se retrouve à une vingtaine d'hectares. cognac et 20 bouteilles. Au moment où tu te dis, qu'est-ce qui m'amène à faire ça? Et nous, c'est l'envie, effectivement, de réinvestir sur autre chose. C'est faire revivre un patrimoine familial. Et puis, c'est transmettre à terme des enfants. Tu te dis à un moment, comment je me diversifie? Comment je me réoriente? Est-ce que j'ai raison de faire tout ça? Est-ce que... Bon. Puis, il y a des choses qui t'attirent, plus ou moins. Bon. Et quand t'es gamin et que tu vis dans une ambiance, la maison que tu as vue, les habitudes qui s'y trouvent, l'activité que l'on y fait, etc., bah, ça laisse des empreintes, forcément. Donc ça, en fait, j'ai toujours été attiré par ça, par ce retour. Donc ça, ça a été une envie, et puis bon, ça a pu aussi se concrétiser parce que l'activité que j'avais à Paris m'a permis de le faire, parce qu'il a fallu investir beaucoup d'argent. La cuverie, les chais, le matériel, à la fois le matériel de culture, le matériel de vinification, pour faire juste 5000 bouteilles de Viognier les premières années. Donc ça a été en fait vraiment des choix de fou, donc ça a vraiment été une volonté importante. Enfin, de 2013 à 2019, je venais travailler, je venais tailler la vigne, je venais, mais je faisais des allers-retours entre mes activités parisiennes et voire ailleurs d'ailleurs, et ici. Mais j'ai toujours tout géré tout seul. Et en 2019, l'activité principale fut la viticulture, quoi.
Les paysages défilent, les indices se multiplient. Pourquoi l'idée de cultiver ici un cépage comme le Viognier et comment on s'y prend? Sur le fil du souvenir, entre périls et triomphes.
C'était un vin en fait que j'appréciais et que je buvais beaucoup parce que je suis d'une époque où quand on travaillait on invitait ses clients à déjeuner et quand on invitait les clients à déjeuner, on déjeunait et on buvait. Et on buvait souvent des Viogniers, c'était un vin qu'on prenait souvent. Et puis c'est comme ça que l'idée est venue, c'est-à-dire l'idée est venue de se dire je voudrais faire autre chose que de la com. Et j'ai des sols, j'ai des vignes, j'ai du cash, je pourrais investir ailleurs. Et voilà comment l'idée est venue. C'était de planter en fait un cépage comme le Viognier, mais en Charente-Maritime, sachant qu'il n'y en avait pas. Parce que s'il fallait faire ce que faisait tout le monde, ça n'avait pas d'intérêt. Donc l'intérêt c'était ça. C'était de prendre un contre-pied un petit peu, parce que comme je n'allais pas faire des quantités énormes, il fallait qu'économiquement ce soit viable. Voilà. Quand j'ai planté, j'ai juste vu des gens, des voisins qui sont venus me voir me demander ce que je faisais. Pour m'encourager en me disant qu'il ne suffisait pas de planter, qu'il fallait après entretenir. À part des encouragements sincères et sympathiques comme ceux-là, je n'ai pas trop de souvenirs particuliers. J'ai des souvenirs, si, d'un terrain magnifiquement entretenu, très propre, d'un alignement parfait, d'un esthétisme très, très, très réussi. Je suis très attaché à l'esthétisme. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était une satisfaction quand même de planter des vignes sur un terroir qui était un terroir familial où j'avais vu mon père... travailler avec des chevaux sur ces terrains-là, quoi. En Charente-Maritime, on a un niveau d'ensoleillement, alors ça se voit pas aujourd'hui, mais qui est un des plus gros, un des plus importants en France. Il fait jeu égal avec le Var, parfois c'est même mieux. Alors, il y a une boucle, en fait, un petit arc de cercle qui part de La Rochelle jusqu'à ces niveaux-là. Au sud de Royan, à 20 bornes au sud de Royan, donc dans le secteur à peu près où nous sommes, ou avec des niveaux d'ensoleillement très élevés. Donc j'ai regardé ça, donc ça m'a effectivement été largement confirmé par les statistiques et puis par les retours Météo France. Voilà, donc et comme l'arrière-saison est très chaude également, donc ça permet une bonne maturité du raisin. Le Viognier, il faut savoir que c'est un cépage qui mûrit sur la dernière partie, c'est-à-dire vraiment... sur septembre, quoi. C'est vraiment en septembre qu'on va là récupérer toutes les complexités du fruit, tous les arômes de terpènes et autres qu'on peut avoir sur ce cépage-là, on les récupère vraiment en toute fin de saison. Alors, sol, je suis en argileux calcaire, donc c'est surtout calcaire. Toute cette partie littorale, toute la partie ouest, Charente-Maritime, c'est calcaire. Là, on est là sur les fins bois, on est sur du calcaire, toute la côte... L'Aurignac, Saint-Dizan, Saint-Thomas, Mortagne, Saint-Fort, Floirac, Mortagne, je ne sais pas si je l'ai dit, Épargne, Chenac. Toute cette partie-là, vraiment le long de l'estuaire de la Gironde, c'est très calcaire. De l'autre côté, on fait 5-6 km de la côte, on se retrouve sur des sables, sur des argiles, donc on n'a pas du tout le même terroir.
Là, il pleut beaucoup.
Donc quand on est sur des terroirs calcaires, c'est idéal pour faire du vin. La pierre, c'est parfait pour faire du vin. Parce qu'on capte des minéraux dans la roche, on capte un certain nombre de choses qui viennent complexifier le produit. Et ça, c'est très intéressant. Ça fait des vins souvent très recherchés, souvent très charnus, parce qu'on fait réagir la plante, on lui fait faire plus d'efforts. Donc elle déploie forcément plus d'énergie, donc elle restitue un fruit de meilleure qualité, parce qu'elle est en combat permanent. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Bah, c'est la même chose. Est-ce que je ressens l'influence de la mer ? Non. Moi, je ne la ressens pas. Mais alors, sur le goût du vin, moi, je trouve pas... quand j'ai commencé à expliquer que je faisais ce vin sur les côtes de l'estuaire, certains me trouvaient un goût d'iode dans les vins. Moi, je ne l'ai jamais trouvé. Mais bon, pourquoi pas. Le fait de le dire, ça y était peut-être déjà à moitié. Non, je ne l'ai pas trouvé. Après, en revanche, la mer joue, l'estuaire joue sur le climat. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des climats très aérés, très venteux. Donc ça compte énormément, parce que parfois, on a des pluies, enfin des vents marins salés qui peuvent un peu brûler le feuillage, ça peut arriver. On a surtout des orages qui sont repoussés, c'est-à-dire que là, on est sur des zones, et particulièrement à Épargne où nous sommes, on a une zone où on a des orages qui sont dispersés. C'est-à-dire que c'est assez rare que nous ayons des orages de grêle. Ça peut arriver, mais quand il y a eu des épisodes de grêle, là, il y a 2 ans, 3 ans, on est passé à côté.
Oui, la récolte sera formidable. D'ailleurs, c'est bien, ça peut être comment, je fais tout moi-même. Oui. Tenez, suivez-moi, vous allez voir.
Le vigneron, d'abord, a une charge de travail qui lui incombe très importante, quel qu'il soit. D'accord. Donc, après, l'entraide existe, mais elle existe en dernier recours. Elle n'est pas naturelle. Mais en revanche, si tu demandes des choses au vigneron, généralement, ils essaient de voir comment ils peuvent t'aider. Moi, j'ai pas à me plaindre de comportement, d'hostilité ou choses comme ça. Bon. Après, moi, mon schéma, il est un peu particulier parce que je suis parti 20 ans, 25 ans, je suis revenu, j'ai refait un métier qui était au départ le leur, que j'ai souhaité faire. Donc, il y a toujours un œil un peu curieux sur ce type de parcours. Après, j'ai des viticulteurs qui m'ont aidé, qui m'ont prêté du matériel. J'ai plutôt de bons rapports avec les autres viticulteurs. Puis, je ne suis pas du tout concurrent de ce qu'ils font. C'est-à-dire que moi, je fais complètement des choses différemment. Sur les vins, je fais des choses qu'ils ne font pas. C'était ça aussi, quand j'ai voulu faire un vin différent, c'est que je ne voulais pas forcément me mettre sur les mêmes lignes de départ que ce qui se faisait déjà. Voilà, je n'avais pas besoin de faire ça. Donc, en réalité, je ne fais pas le même produit. C'est pas du tout la même approche.
Frédéric témoigne d'une force tranquille. On a suivi la piste de ce qui est essentiel pour lui, respect de la terre et de la nature. Un équilibre qu'il maintient en laissant s'exprimer ses vignes, en gardant intacte sa logique, tout en s'adaptant au changement climatique.
C'est une philosophie. Voilà, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est une appropriation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça va avec une manière de fonctionner. C'est-à-dire que j'avais rencontré des viticulteurs dans le sud qui me disaient « un bon vigneron ne s'énerve jamais ». Faire un bon vin, il faut que ça se ressent dans sa manière de travailler la vigne, si la vigne est stressée, si elle n'est pas stressée. Si... C'est toujours un équilibre entre à la fois canaliser un petit peu la manière dont elle pousse, la manière dont elle se développe, mais aussi lui laisser une liberté. Moi, je crois beaucoup à ça, je crois beaucoup à la force naturelle des choses et aux équilibres à respecter. Donc c'est-à-dire que oui, on peut faire des palissages, oui, on peut bien l'entretenir, ça c'est la base, mais il faut lui laisser aussi une part de liberté. La vigne a besoin de s'exprimer. Voilà. On ne peut pas faire que canaliser. ça, il faut laisser. De même qu'il faut... Alors, ce qui c'est intéressant dans la culture bio, c'est que dans le bio, on laisse des végétaux apparaître qu'on ne laisse pas apparaître en culture intensive, où on désherbe tout, on tue tout, et on ne laisse émerger que vraiment ce que l'on veut cultiver. On a des vignobles, par exemple, on voit des pieds de vigne et des cailloux. Bon, ici, on en a dans le secteur, bah, c'est pas naturel, c'est juste qu'on a des vignes qui sont hyper... gorgé de produits chimiques pour qu'il n'y ait que le pied qui apparaisse et pas d'herbe dessous et rien. Mais bon, ça veut dire qu'on a tout tué, on a saturé les sols, on a tout plombé, quoi. Ben, la nature, c'est pas ça. Voilà. Généralement, ceux qui font ça sortent de mauvais vin. Mais il n'y en a pas dans le secteur. On est dans une logique de respect des sols. La première chose à faire, c'est respecter les sols. Parce qu'en fait, ce qui te donne ton produit, ce qui te nourrit, c'est ton sol. Donc la première chose, c'est ça. Ça veut dire que tu réfléchis bien aux produits que tu mets dans tes sols, parce que tu les as pour une durée plus ou moins longue. Et donc, voilà. Donc la première chose à faire, c'est ça. Donc ça veut dire que dans le choix des matériaux que tu utilises, de tes engrais, de tes produits, voilà, tu fais très attention à ça. Ensuite, tu fais attention... à la mécanisation des sols. Tu ne martyrises pas tes sols, tu ne martyrises pas ta plante. Enfin, tout ça, c'est aussi très important. Donc en fait, faut être dans une logique assez... faut être dans la logique du végétal, faut comprendre l'évolution et la concurrence qui existe sur un espace donné. Parce que tu as une concurrence sur un terroir. Tu as ce que tu favorises, donc tes plantations. Donc ça, c'est ce que tu cultives. Mais c'est au détriment... d'autres végétaux qui veulent aussi s'implanter et qui le font. Donc la nature, c'est ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu favorises quelque chose, tu défavorises autre chose. Et ceux que tu défavorises se battent toujours pour revenir. Ça, c'est la nature. Donc ça, déjà, il faut bien le comprendre. Par exemple, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à utiliser certains herbicides, bah, on détruit effectivement l'herbe, on finit par la détruire. Tant bien que mal, parce que l'herbe elle-même résiste pour finalement tenir plus longtemps aux herbicides qu'on lui envoie. Mais c'est plutôt qu'elle finit quand même par s'affaiblir, et à ce moment-là, c'est une autre espèce qui apparaît, qu'on n'a pas du tout prévu, et celle-ci, elle se développe. Donc on détruit quelque chose, mais on crée un autre parasite. C'est chaque espèce, qu'elle soit végétale ou animale d'ailleurs, est programmée pour se développer en surface et en nombre. C'est-à-dire que sur une surface, il faut développer sa surface, et dans sa surface, il faut développer son nombre, son volume. C'est ce qui se passe à l'échelle humaine, c'est ce qui se passe à l'échelle du végétal, c'est ce qui se passe... Voilà, c'est... la vie, c'est ça. Le changement climatique, il est là. Ça ne me préoccupe pas du tout. Le point important, c'est notre capacité d'adaptation. Déjà, la nature s'adapte en permanence. On voudrait en fait que pouvoir continuer de faire les choses dans un environnement naturel qu'on ne maîtrise pas. Bon, bah, c'est déjà le raisonnement, il est déjà un peu stupide. Donc, il faut déjà commencer par accepter l'évolution et ensuite voir comment on peut s'y adapter. Donc, la vigne, elle nous a pas attendu, elle s'adapte déjà. Elle s'adapte déjà sur sa production, sur son vieillissement, sur sa durée de vie. Soit elle tient bien, soit elle meurt plus tôt, soit elle produit plus, soit elle produit moins, soit voilà, c'est déjà, ça se fait déjà. Donc nous, ce qu'il nous faut faire, c'est essayer toujours, c'est toujours la même chose, il faut toujours essayer de réguler tout ça. Après, quand on n'a pas des moyens sur tout, hein. Donc le changement climatique, il est là, ça nous permet aujourd'hui de faire des vignes plus en plus, sur des latitudes de plus en plus élevées. Donc le changement climatique, si tu veux, n'est pas en soi un problème. Il faut juste avoir la capacité de se dire... comment je vais transformer mon produit, à quoi il va ressembler demain, comment je vais le commercialiser. Alors c'est sûr qu'ici, s'il faisait moins chaud, peut-être que j'aurais pas mis de vionnier. En Champagne, par exemple, ils faisaient des vins à 7-8 degrés parce qu'il y avait des terroirs sur lesquels il n'y avait jamais de soleil. Aujourd'hui, le champagne, c'est un produit qui se vend dans le monde entier. Donc les gens se sont adaptés. Bon, ben, nous, on va faire la même chose, mais autrement.
Le vin, mémoire de la terre. Et Frédéric de raconter son vin, celui qu'il a façonné, celui qu'il boit et celui qu'il transmettra.
Le vin est la mémoire de la terre. En fonction du vin que tu bois, tu vas connaître la nature de ton sol. Voilà, ça c'est sûr. Le vin, c'est un repère de goût, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de goûts différents qu'on retrouve dans les vins. Parfois, tu as des vins qui te rappellent des ambiances, oui. Le goût peut te rappeler des ambiances, le goût peut te rappeler des situations. Le vin, c'est quelque chose qui se goûte. Bon, voilà, donc ça fait appel à des sens qui sont très personnels et qu'il faut savoir appréhender et qu'il faut savoir amener vers un produit qui soit un produit hyper qualitatif, hyper agréable à boire, plaisant. Donc ça veut dire qu'il faut un ressenti de la matière, il faut un ressenti de ce que l'on fait. Voilà. Donc c'est-à-dire que l'apprentissage ne suffit pas. Voilà. Il faut l'aimer, bien sûr, mais il faut le ressentir. Et quand on ressent les choses, on fait des choix qui se transforment par des choix techniques qui amènent à des produits totalement différents. Quand tu ressens les choses, ben voilà, tu fais un vin qui te ressemble et qui te convient, bien sûr, la plupart du temps. Parfois, ça peut ne pas te contenir. On peut se tromper aussi, évidemment. Ça m'est arrivé de faire des cuvées ratées, voilà, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est-à-dire que parfois, on fait des vins comme on les aime. On n'y arrive pas toujours, mais souvent on y arrive. Mais parfois, on n'aime pas ce que l'on fait. En tout cas, ce n'est pas exactement ce que l'on aurait aimé, mais on s'aperçoit qu'on a quand même une clientèle pour ça. Donc c'est aussi de l'humilité. Parce qu'on se dit, il y a ce que j'aime, mais il y a ce que mes clients aiment. Et parfois, ce n'est pas la même chose. Et parfois, c'est même rassurant. Bon, j'aime boire. Si, en compagnie. J'aime boire en compagnie. Je ne bois pas seul. C'est hyper rare que je boive seul. Enfin, je ne bois jamais de vin seul. Non, oui, je bois toujours en compagnie. C'est un partage, le vin. Hein. Enfin, le point de départ, c'est ça. C'est un plaisir individuel et puis c'est un partage. C'est comme ça qu'il faut le voir. Enfin, je le vois comme ça. Ouais, donc deux fils, 27 et 30 ans. À qui on va transmettre un patrimoine. C'est important la notion de transmission. Parce qu'en réalité, j'ai pas eu cette chance-là. Donc il a fallu que je redémarre tout à 45 ans, dans cette activité-là en tout cas. Mais j'ai pu le faire parce qu'avant j'ai eu d'autres réussites professionnelles, sinon j'aurais jamais pu le faire. Mais voilà. Transmettre n'enlève pas la réussite des autres, hein, de ses propres enfants. C'est pas parce qu'on leur transmet qu'ils vont pas réussir ailleurs. Donc, c'est toujours mieux de démarrer avec une base que démarrer. Là, pour le coup, c'est autre chose que de l'argent. C'est de l'argent, c'est du patrimoine, mais c'est l'histoire, c'est l'histoire d'une famille en fait. C'est l'histoire d'une famille avec son vécu, avec ses coupures, avec les ruptures, tout ça. Ils ont été élevés dans cet esprit-là. C'est une histoire. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Écoute, on a fait le tour. Ouais, t'as tout ce qu'il te faut.
On a taillé les vignes, visité le chai, accompagné le transport du futur cognac. On a aussi mesuré un taux d'alcool, fait une dégustation et parlé de Napoléon. On a parfait le monde. On en a découvert un nouveau, un essentiel, celui de Frédéric Duret. Pour déguster, vous aussi, ce vionnier, survolé de près par les abeilles, déroulez le fil qui vous mènera ici, au domaine des Côtes de l'Estuaire, sur les vignobles Royans Atlantiques.